Ce soir, nous allons prendre seulement deux versets dans l'évangile de Marc et on va voir une toute petite histoire, ce que l'évangéliste a à nous raconter. Le titre de cette méditation, c'est « Des pièces jaunes ». Je pense qu'on est tous un peu familiers avec les pièces jaunes. En quelque temps, on collectait les pièces jaunes pour aider les pauvres, pour des causes spécifiques. Donc, l'histoire de la veuve et de ces deux pièces jaunes est l'une de ces leçons bibliques qui semblent simples à première vue, mais qui ont des couches de signification à déballer. On est assez familier avec cette histoire de pièces, deux pièces que la veuve elle a mis dans le tronc. Et donc, ce passage, on va lire Marc 12, versets 42 à 44. On va lire à partir de verset 41. Marc 12, évangile de Marc. Chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc, ici, dans le verset 43, nous voyons, nous sommes à l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Donc, le verset 43, alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité. Donc, Jésus ici attire l'attention de ses disciples. Et nous sommes ses disciples. Et ce soir même, Jésus nous appelle à faire attention, de regarder ce que l'acte de cette pauvre veuve. L'histoire de la pauvre veuve et de ses deux mythes se trouve à la fois dans l'évangile de Marc et celui de Luc, chapitre 21, les premiers quatre versets. Selon les récits évangéliques, Jésus était assis dans le temple près de la boîte de collecte. Beaucoup de gens sont venus et ont déposé leur offrande. Ceux qui étaient riches mettaient de grosses sommes, mais cette pauvre veuve n'avait que deux pièces jaunes. Jésus a dit à ses disciples que la veuve avait donné plus que les autres. La majorité des gens avaient mis de l'argent de leur superflu, ce qu'ils avaient en plus. Mais la veuve avait donné tout ce qu'elle avait. Et c'est intéressant de noter que dans l'évangile synoptique, ce n'est pas Matthieu qui raconte cette histoire. Mais Matthieu, il était un collecteur d'impôts. Et donc, quand Jésus l'a appelé, il devrait tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Hein? Et nous voyons, Matthieu ne raconte pas cette histoire, mais quand Jésus appela des autres disciples, Pierre et Jean, ils ont laissé leur bateau et ils ont suivi Jésus-Christ. Mais il avait toujours l'opportunité de reprendre leur profession. Mais Matthieu n'avait pas cette opportunité. Et si vous regardez dans l'évangile de Matthieu, Matthieu donne beaucoup d'importance de c'est quoi de cet aspect de donner. Mais comment donner cet aspect de donner? Donc, donner notre argent ou autre don, ça demande un sacrifice. On ne peut pas donner sans un sacrifice. On ne peut pas donner gratuitement. Donc, ici, Marc, il raconte cette histoire et ainsi que Luc. Donc, avant de commencer à décortiquer l'histoire de la veuve et de deux pièces d'argent, regardons le contexte environnant du verset. Nous allons examiner le récit dans Marc 12. Le chapitre commence avec la parabole de vigneron et le maître de la vigne. Jésus a parlé d'un propriétaire terrien qui avait une vigne bien-aimée qu'il avait louée à des vignerons. Quand vint le temps de la moisson, les vignerons traitèrent mal ses serviteurs. Donc, il envoie ses serviteurs pour récupérer, mais il frappe, il tue un par un. Donc, finalement, l'homme décide d'envoyer son fils, son fils bien-aimé, en pensant qu'il obtiendrait plus de respect de la part de vignerons. Mais il le tue à la place. Les scribes et les pharisiens comprirent que Jésus avait raconté la parabole contre eux et voulut l'arrêter. Ce passage se trouve encore une fois, Jésus il était très près de sa mort. Donc c'était quelques jours avant sa mort, Jésus s'assoit dans le temple et il regarde comment les gens ils donnent. Donc ça passe juste avant, donc les pharisiens, les scribes, ils cherchaient l'opportunité pour tuer Jésus. Donc quand Jésus il a raconté cette parabole, de cette histoire, et cette parabole, il voulait l'attraper pour arrêter. Il ne pouvait rien faire à ce moment-là parce qu'il craignait les gens alors ils ont laissé tranquille. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Il envoyait des pharisiens et des hérodiens pour le piéger dans le discours. Donc, la question qu'ils ont posée concerne le paiement de l'impôt à César. Nous connaissons la réponse, la sagesse de Jésus-Christ. Et peut-être espéraient-ils que Jésus leur dirait de ne pas payer d'impôt afin de pouvoir l'accuser de la trahison. Mais Christ répondit avec sa sagesse divine. Il leur dit de lui donner ce qui est à César et de donner à Dieu ce qui lui appartient. Donc, encore une fois, il voulait coincer Jésus, mais il n'a pas pu. Les Sadducéens étaient les suivants. Ils sont interrogés Christ au sujet de la résurrection. Donc, encore cette histoire, c'est dans le même chapitre. Hein? Donc, cette histoire. Que se passerait-il? Une femme était mariée plusieurs fois sur terre et ressuscitée. De qui serait-elle l'épouse? C'est cette fois. Et encore, c'est une histoire, mais cette histoire s'est fabriquée. Hein? C'est pour piéger Jésus. Ils ont fabriqué cette histoire. Ce n'est pas vrai. Donc, Jésus, ensuite, interroge Jésus sur le plus grand commandement et laisse entendre qu'il y a plus dans le psaume 110 hein, qu'il ne le pense. Finalement, il dit au peuple, il leur disait, Marc 12, 30, 38 à 40, juste avant notre passage, verset 38 à 40, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans la place publique, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans le festin, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. Donc, les pharisiens, les scribes, ils viennent pour piéger Jésus, mais Jésus dit clairement. Et donc ici, il dit très clairement qu'il dévore les maisons des veuves. Il est intéressant de noter qu'après tout cela, une veuve entre dans le temple. C'est juste avant, après tout cela, une veuve entre dans le temple. Donc, quelle est la signification de cette histoire de cette veuve? Faisons un peu plus dans cette histoire, la Bible nous dit qu'elle a mis deux petites pièces, faisant un quart de sou. même à cette époque, deux petites pièces, ce n'était pas beaucoup d'argent, mais en comparaison de ce qui l'avait précédé, la pauvre veuve avait tout donné. En Matthieu chapitre 6, je crois, Jésus parle, avec deux pièces, on peut acheter des moineaux, des oiseaux. Hein. Donc, c'est vraiment la petite somme d'argent. Donc, premièrement, nous voyons ici l'attitude de notre cœur quand on donne. On donne, ce n'est pas qu'est-ce qu'on donne, mais comment on donne et pourquoi on donne, pour qui on donne. C'est ça qui devrait être notre attitude. Les scribes, les pharisiens et les sadducéens avaient montré par leur action que leur cœur n'était pas à la bonne place. Ils étaient tellement concentrés sur le fait de suivre la lettre de la loi dans le moindre détail qu'ils passaient souvent à côté du cœur de Dieu. Donc, ils ne pensaient pas ce que Dieu voulait, mais il était très concentré pour suivre la loi à la lettre. De plus, il s'attendait à ce que tout le monde interprète et vive la loi de la même manière qu'eux. C'est de leur comportement que nous tirons le mot légalisme. Ah, il était des légalistes. Je suis sûr que si un scribe, un pharisien ou un sadducéen était approché de la boîte à offrande pendant que Jésus était assis là, ce qu'il y avait mis aurait été exactement ce qu'il aurait dû y mettre selon la loi. Donc un pharisien ou un scribe, il aurait dû mettre, par exemple, le dîme. Il aurait dû mettre exactement ce qui était prescrit dans, selon la loi. Mais c'était là le problème. Il se souciait davantage de suivre la loi ou de paraître la suivre. Et parfois, on peut être très religieux. Hein? On veut paraître religieux. Et paraître la suivre, que de traiter des gens avec amour et respect. Il savait comment exécuter les actions de la loi que la loi exigeait, mais il ne se rendait pas compte que la loi existait parce que Dieu aimait l'humanité. Toute l'humanité. Ils n'ont pas compris que les Israélites ont été mis à part pour montrer l'amour de Dieu. Mais on peut toujours poser la question, mais pourquoi Dieu a donné cette place spéciale pour la nation d'Israël? Il voulait que le monde il comprenne comment Dieu il aime ce peuple. Et pour montrer l'amour de Dieu aux autres nations qui voudraient alors servir le vrai Dieu. C'est comme un exemple. La pauvre veuve a compris le sacrifice. Elle aimait Dieu assez pour lui donner tout ce qu'elle avait. Son cœur était elle avait la bonne attitude dans son cœur. Et deuxièmement, nous devrions savoir que pour donner, c'est la foi qui donne. Jésus observait les gens pendant qu'ils faisaient leur offrande. Et pourtant, c'était l'offrande de cette pauvre veuve qui était importante pour lui. Jésus ne regardait pas seulement cette veuve qui donnait, il regardait aussi les autres. Hein. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ont mis l'argent à cette époque, dans le temple, il y avait 13 boîtes d'offrandes. Donc, la collecte, c'était pour l'entretien du temple. Et deuxièmement, c'était pour occuper des prêtres, des sacrificateurs. Et troisièmement, c'était pour la charité, pour aider les pauvres de cette époque. Donc, en tant que veuve, elle aurait été dépendante de la générosité des propriétaires terriens qui suivaient la loi mosaïque selon Deutéronome 24, 19 à 21. Parce que la loi était très claire en faveur des pauvres et des veuves. Et je vais lire ce passage pour vous, Deutéronome 24, 19 à 21. « Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth? Ruth, elle était en veuve avec sa belle-mère Naomi. Et donc, elle était pour aller ramasser dans le champ de Boaz. D'une manière ou d'autre, elle est entrée en possession de deux pièces d'argent, cette femme. Une somme d'argent insignifiante. A-t-elle d'abord pensé à toutes les choses qu'elle pourrait acheter avec cet argent? Et dès qu'on a un peu de sous dans la poche, on a le projet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Qu'est-ce que je peux acheter pour moi? Ce qu'on pense. Mais on ne sait pas qu'est-ce que cette femme elle a pensé avec ces deux pièces. A-t-elle envisagé de la cacher pour un moment où il en aurait plus besoin? La Bible ne le dit pas. Ce que nous savons, ce que sa décision finale a été de l'apporter au temple. Ce que nous, souvent, c'est dit chez nous, mais on décide quoi donner, même quand on part de chez nous. C'est une décision à faire. Et cette femme, elle avait cette décision. Elle n'avait que ça, les deux sous d'argent, les deux pièces d'argent. Elle avait décidé de mettre tout. Et bien souvent, notre choix de faire ou ne pas faire, et c'est la décision qui devrait être déjà prise. Si on n'a pas décidé, on ne va pas faire la bonne chose. Si on est décidé de ne pas arrêter au feu, on ne va pas arrêter au feu. Donc, c'est quand même, il demande une détermination. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait, pour vivre. C'était que ça. D'accord? Vous vous rappelez de cette histoire dans 1 Roi, chapitre 17, quand Élie, il devrait passer chez la veuve de Sarepta. Donc, cette femme, elle avait que ça. Un peu de farine, un peu d'huile. Elle ramassait le bois pour faire le gâteau, pour manger. Selon elle, elle dit que moi et mon fils, on va manger, après on va mourir. C'était une situation misérable, n'est-ce pas? Donc elle n'avait pas plus que ces deux pièces. Après que ces deux pièces étaient tombées dans la boîte, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'argent à la banque. Pas de carte de crédit non plus, comme de nos jours. On peut dépenser plus qu'on a. Il n'y a pas de carte de crédit à utiliser. Et plus que probablement, cela signifiait qu'il n'y avait pas de nourriture pour ce jour-là. À moins qu'il n'y ait un miracle. Il n'y avait rien. Donc, comment elle a pu mettre tout l'argent qu'elle avait? La veuve donnait non pas parce qu'elle le pouvait, mais parce qu'elle le voulait. C'est une volonté. C'était un sacrifice d'amour semblable à celui d'un homme qui donne sa vie pour un monde déchu. Elle était financièrement ruinée, mais peut-être on peut rire quand je dis que financièrement ruinée, elle avait presque rien, elle avait que ces deux pièces d'argent, mais quand elle a tout donné, elle n'avait rien, mais sans dire un mot, elle est devenue la voix de la foi active. Elle montre comment, avec la foi, dépendant entièrement sur Dieu, elle peut donner tout ce qu'elle avait, parce qu'elle avait la foi que Dieu s'occupera d'elle, s'occupera de sa vie. Elle n'a pas revendiqué la promesse de Dieu de pouvoir un jour la réclamer. Dieu l'a dit, il y a la promesse de Dieu, hein, mais elle n'a pas fait pour réclamer un jour, mais elle l'a réclamé immédiatement en donnant tout ce qu'elle avait et en choisissant de croire que Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Mais qu'est-ce que, mais quand on pense à donner, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Vous savez, dans le psaume 50, mais si on peut, on peut lire ce passage, psaume 50, on va lire à partir de verset 5. Psaume 50, à partir de verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni le bouc dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi, tous les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne, et tout ce qui se meurt dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les trésors. Mais qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Alors, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais simplement, Dieu, il voit notre cœur. Comment on donne? Mais parfois, s'il y a le reste de nourriture dans la maison, on ne va pas donner à notre invité. Parfois, on est prêt à donner à Dieu. Si, après avoir tout dépensé, s'il y a des petites pièces dans la poche, quand le sac elle passe, on est prêt à mettre ces petites pièces jaunes dans le boîte d'offrande. Mais Dieu ne mérite pas cela. Mais comment nous traitons Dieu? Et Dieu n'a pas besoin de notre argent. Notre Dieu, il est riche. Hein? Il nous a donné beaucoup de bénédictions, mais notre temps, comment nous donnons notre temps? Est-ce qu'on donne les miettes à Dieu ou nous consacrons notre temps? Il y a 24 heures dans la journée, mais si nous réfléchissons à comment nous dépensons notre journée, mais je pense que nous ne pouvons pas être fiers souvent. Mais qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Est-ce qu'on donne les miettes à Dieu? Mais les gens, ils ont mis beaucoup d'argent. D'accord? Mais la veuve, elle n'avait que deux pièces. Elle a mis tout. Elle n'a pas, elle avait le choix de ne pas donner. Deuxième choix, c'est qu'elle aurait pu donner 50%. 50%, c'est beaucoup, hein? Si, imaginez, si on peut mettre 50% de nos salaires dans l'offrande, c'est beaucoup. On peut être fier de ça. Mais elle a mis tout. Elle a donné 100%. Donc, c'est pourquoi Jésus il remarque à ses disciples que cette veuve, elle a mis tout ce qu'elle avait. Que pouvons-nous apprendre de l'offrande de la veuve? En tant que chrétien, nous sommes appelés à nous comporter et à vivre d'une certaine manière, non pas pour tromper ou prétendre que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons été mis à part dans un but. Le Christ nous appelle à être ses témoins sur la terre. Est-ce que nous avons notre cœur rempli de gratitude pour donner à Dieu? Et Il a modelé le comportement et le cœur que Dieu veut de son peuple afin que nous ne nous ayons pas à deviner ce qui était attendu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire de nos vies des sacrifices vivants au Père qui a envoyé son Fils mourir à notre place, comme nous voyons dans la parabole. Jésus a vu le sacrifice de la pauvre veuve, il voit aussi le nôtre. Est-ce que si on n'a pas donné nous-mêmes, si on a encore des réserves dans notre vie, je garde certaines parties de ma vie pour moi-même et sûre et certaine, je ne peux pas donner de bon cœur. Je ne peux pas donner des matériels pour Dieu entièrement. Donc Dieu le demande des sacrifices vivants au Père qui a envoyé son Fils mourir à notre place. Jésus a vu le sacrifice de la pauvre veuve, il voit aussi le nôtre. C'est pourquoi nous sommes appelés à la fidélité. Dieu est plus préoccupé par l'état de nos cœurs lorsque nous donnons que par le montant que nous offrons en sacrifice. Voyez-vous, Dieu sait que lorsque nos cœurs sont à la bonne place, tout le reste se mettra en place. Quelqu'un a dit, Dieu ne voit pas combien vous avez donné. Dieu le voit combien vous avez gardé pour vous-même. Rappelons-nous de l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont gardé une partie. Ils n'ont pas tout donné. Mais personne n'a obligé Ananias et Saphira de tout donner. Mais Dieu, il ne voit pas ce qu'on donne. Il voit ce qu'on garde pour nous-mêmes. Et ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas uniquement des choses matérielles, mais de notre vie. On peut beaucoup donner, mais qu'est-ce qu'on garde pour nous-mêmes? Ce soir, posons-nous la question difficile. Qu'est-ce que notre attitude de donner dit de nous? Demandons-nous, nos motivations pour servir Dieu sont-elles justes? Prions et demandons à Dieu la bonne attitude lorsque nous donnons. Prions que Dieu purifie nos cœurs et les réconcilie avec lui. Donc, ces deux, trois versets, ça parle beaucoup. Et Jésus, dans le 19, je pense qu'il y a 19 paraboles dans l'évangile, et dans le 16 paraboles, il parle de l'argent et le cœur de l'homme. Et donc, Dieu considère ça. Nous avons tous le problème avec notre argent. Être riche, ce n'est pas quelque chose. Et être pauvre non plus, ce n'est pas quelque chose. Mais notre cœur, comment nous donnons notre argent, notre temps, notre personne entière à Dieu qui compte. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, pour cet exemple que tu as montré dans la vie de cette veuve. Seigneur, elle a tout donné pour toi. Elle n'avait pas beaucoup pour donner, mais ce qu'elle avait, elle avait sacrifié pour toi. Seigneur, nous voyons comment tu as apprécié cette attitude de son cœur. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui ne voit pas la face des gens, qui ne voit pas le visage, mais tu vois le cœur. Seigneur, tu ne vois pas nos actes, mais tu vois notre attitude. Seigneur, si nous avons le problème avec l'argent, nous te prions que tu nous montres, tu nous corriges. Aide-nous à nous corriger par rapport à cette difficulté que nous pouvons avoir dans notre vie. Tu nous connais, Seigneur, il n'y a rien à cacher devant ta sainte face. Seigneur, nous prions que tu nous instruis, tu nous corriges, Seigneur, par ton Esprit Saint. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.